Des ministres en ordre de bataille. Le gouvernement a présenté son projet de loi confortant les principes de la République.
Ce projet de loi n'est pas un texte contre les religions, ni contre la religion musulmane en particulier. C'est à l'inverse une loi de liberté. C'est une loi de protection. C'est une loi d'émancipation.
Il y a 2 mois, après 3 attentats visant des cibles symboliques, un professeur, une basilique et les anciens bureaux de Charlie Hebdo, Emmanuel Macron avait promis des mesures fortes. Lors d'un discours prononcé dans les Yvelines aux Mureaux, il avait désigné le séparatisme islamiste d'adversaire de la République.
Il y a, dans cet islamisme radical, puisque c'est le cœur du sujet, une volonté revendiquée, affichée, une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République, ériger d'autres valeurs.
Le texte présenté aujourd'hui ne cible aucune religion, mais prévoit toute une série de dispositions. Plus de transparence et de contrôle sur le financement et le fonctionnement des lieux de culte. Scolarisation obligatoire pour tous les enfants des 3 ans, sauf dérogation. Renforcement du respect de la laïcité dans les services publics et les associations. Création d'un nouveau délit pour lutter contre la haine en ligne. Le projet de loi sera examiné début 2021 à l'Assemblée nationale. Les débats s'annoncent vifs, entre des tensions au sein même de la majorité et des accusations de laxisme dans l'opposition à droite.
L'immigration, pas un mot. Le président de la République a peur de prononcer ce mot. On ne peut pas nous expliquer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre le communautarisme et l'immigration.
Alors le nouveau texte confortera-t-il les principes républicains et la laïcité? Risque-t-il de stigmatiser l'islam et tous les musulmans? Fallait-il un nouvel arsenal législatif?
La définition de la laïcité, elle semble très variable selon les personnes. Jean-Pierre Sacoun, on voit bien en effet que les désaccords commencent dès qu'il s'agit de donner une définition au mot laïcité. Est-ce que cette loi apporte des clarifications dans son texte?
Elle apporte en tout cas un renforcement. La laïcité n'est pas définie sur le plan juridique. Ce qui est défini, c'est un certain nombre d'éléments comme la liberté de conscience, le libre exercice du culte, mais pas la laïcité. Mais en revanche, l'ensemble des lois et de l'histoire de la France depuis 1789 permettent de se construire une idée de ce qu'est la laïcité avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, particulièrement les articles 3 et 10, le décret de 1795 qui sépare l'Église et l'État déjà, etc., etc., etc. On peut reprendre, dérouler toute l'histoire.
Mais est-ce que tout le monde s'accorde sur une même définition?
Non, bien entendu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à modifier la notion de laïcité en l'adjectivant, par exemple, ce qui est intervenu à partir de la fin des années 80 sous l'influence d'un certain nombre d'universitaires...
Laïcité radicale, ouverte,
etc. Et dont on sait bien, en fait, que cette adjectivation n'a qu'une fonction. C'est faire comprendre que ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas ouverts, ne sont pas souples, donc sont fermés, sont radicaux, etc., etc. Donc, la laïcité en tant que telle, oui, c'est un corpus très clair. C'est un corpus qui est fondé sur la liberté de conscience et sur l'émancipation. C'est-à-dire que ça n'est pas qu'une neutralité de l'État, la laïcité. C'est ce travail positif de l'État pour l'émancipation des citoyens.
Fatima Kemila.
Je suis contente de vous avoir entendu dire et parler de la question de la liberté de conscience parce que quand même, dans l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, c'est la République assure la liberté de conscience. Je pense que le cadre, il est posé avec ça. Et puis tout de suite, rajoute, et garantit la liberté, le libre exercice des cultes. Et c'est pour ça que c'est très important de rajouter aussi ce petit morceau parce qu'en fait, la liberté religieuse, c'est 2 choses. C'est la liberté de conscience à l'échelle individuelle et privée. J'ai le droit de croire ou de ne pas croire. Exactement. En ce que je veux, absolument. La République me le permet. Et puis la liberté, le libre exercice des cultes, c'est la liberté collective et publique du culte. Et ces derniers temps, la laïcité, elle est souvent comprise comme étant simplement une liberté individuelle et privée. C'est pas ça l'esprit de la loi de 1905. C'est bien plus large que ça, à mon sens. Et juste pour reprendre un des termes un des points qui a été abordé, sur la question de la définition. On a quand même des sociologues qui définissent la laïcité, en l'occurrence Jean Bobéro, un historien de la laïcité, un ponte de la laïcité, qui dit la chose suivante, c'est à la fois la liberté qu'on vient d'évoquer, la laïcité, c'est aussi la légalité entre tous les cultes, puisque c'est ça l'idée de ne pas reconnaître un culte, c'est de permettre à tous les cultes d'être égaux. Et il évoque 2 moyens, la neutralité et la séparation de l'État, qui ne sont pas les finalités, mais les moyens de garantir cette liberté et cette égalité entre tous les cultes.
Un petit mot pour rebondir. J'ai entendu dans ce que vous disiez absolument tous les gimmicks évidemment, de cette laïcité adjectivée. Alors d'abord, évidemment, la référence à Bobéreau, on oublie Catherine Kinsler, on oublie Henri Peña-Ruiz, on oublie tous les grands laïcs.
Vous voulez dire que Bobéreau est un historien orienté d'un côté, alors que,
par exemple, le cœur de la laïcité adjectivée, c'est bien Jean Bobéreau, qui va même jusqu'à proposer l'existence d'une laïcité concordataire. C'est-à-dire, grosso modo, c'est l'eau qui mouille pas, le feu qui brûle pas. Il y a la laïcité concordataire. Et puis, alors, cette chose très classique chez les gens qui ont votre pensée, c'est l'article premier de la Constitution, l'article premier de la loi de 1905, c'est la liberté de conscience et la liberté de ses cultes. Non. La République garantit la liberté de conscience, assure la liberté de conscience. Point. Elle garantit la liberté des cultes. Le point est fondamental parce que ce point veut dire que c'est parce que la liberté de conscience est assurée, c'est-à-dire qu'on protège les citoyens contre l'obligation du culte, qu'on a la générosité de garantir l'exercice du culte.
Alors, un chiffre.
Entre autres.
On parle de la loi de 1905, le chiffre du 115. Jour, c'est un symbole.
115, car la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'État, a 115 ans aujourd'hui. Alors, vous en avez rappelé le premier article. Le deuxième dit que la République ne reconnaît ni subventionne aucun culte. Voilà. Cette loi de 1905 et les autres qui ont suivi, comme par exemple la loi de 2004 sur les signes ostentatoires religieux à l'école, ne suffisaient donc plus pour lutter contre le séparatisme. Est-ce qu'on avait besoin d'une nouvelle loi ?
Alors moi je dis la loi de 1905. Toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. On a tous les éléments dans la loi de 1905 en réalité. Et les tentatives d'addition, parce que c'est à ce moment-là qu'elles viennent, avec le premier coup de canif à cette question en 2004, et puis d'autres...
Vous appelez ça un coup de canif pour vous, la loi de 2004, elle n'est pas laïque.
Je vais vous expliquer pourquoi. Le principe de neutralité...
La loi de 2004 qui donc empêchait les signes
ostentatoires
au centre de l'école. Et dans les écoles publiques.
Dans les écoles publiques.
Exactement, dans les écoles publiques, pour les élèves. Et c'est le dernier point de la phrase qui est important.
Pour les élèves ?
C'est pour les élèves. Parce qu'en réalité, l'obligation de neutralité vaut déjà, en fait, pour le personnel de l'État, c'est-à-dire pour les fonctionnaires. Et c'était compris dès la loi de 1905. Alors, pourquoi c'est important le dernier élément ? C'est que, en fait, cette loi n'a pas été pensée pour appliquer le principe de neutralité aux usagers du service public. Parce que les élèves, les étudiants, sont des usagers du service public. Et que l'État leur garantit, c'est la liberté de conscience et le libre exercice de leur culte avec des signes religieux. Pour la première fois, avoir introduit le fait qu'on ne puisse pas porter des signes ostentatoires pour des usagers, c'est avoir commencé déjà à ouvrir la brèche qui s'est étendue après
aux entreprises. N'est pas la liberté de conscience, justement, de pouvoir s'affranchir de sa différence ?
Alors, je vais vous donner une grande nouvelle. La loi 1905, c'est pas une loi sur la laïcité, c'est une loi sur la séparation. Les lois sur la laïcité à l'école, c'est 1881-1886.
Ça va vous rappeler quelqu'un. Vous n'êtes pas mon professeur.
Les lois de 1881-86 expliquent très très clairement que la laïcité est là pour protéger la conscience des élèves, pour leur offrir, comme dit Catherine Kinsler, une respiration laïque. Ce moment où ils vont pouvoir abandonner, où ils vont pouvoir laisser de côté l'ensemble des pratiques familiales, amicales, etc., pour s'ouvrir à quelque chose qui est nouveau pour eux, et c'est tout à fait normal, c'est la liberté de conscience. La liberté de conscience, ça ne s'apprend pas avec une kippa sur la tête ou avec un voile sur la tête. La liberté de conscience, ça s'apprend en étant des élèves comme les autres. Et je vais vous citer un philosophe que vous connaissez sans doute, qui est Souleymane Bachir Diagne, qui est un grand...
Grand philosophe.
Un de mes vieux copains. Et Souleymane Bachir Diagne, au début des années 2000, était dans une conférence sur la laïcité et racontait, en faisant rire la salle, qu'effectivement, à Dakar, on lui a appris, mes ancêtres les Gaulois, comme moi, à Tlemcen, Algérie d'ailleurs. Et il a dit, évidemment, mes ancêtres n'étaient pas les Gaulois. Et puis il s'est tourné vers la salle, d'ailleurs, les Gaulois n'étaient pas vos ancêtres non plus. Et il a dit quelque chose de génial, il a dit, en fait, les Gaulois, c'est les ancêtres des écoliers. Réfléchissez à ça.
Fatima, Camilla, pardon, c'est une croisade qui désigne à la vindicte une minorité désignée. C'est ce que conteste un certain nombre d'opposants à cette loi, des philosophes ce matin, Albert Ogier et d'autres. C'est ainsi que vous la voyez ?
La loi de 1905, c'est une loi de pacification. elle intervient à un moment où il s'agit de pacifier l'État français, d'avoir cette idée que finalement on n'a pas finalement des églises et l'État qui sont sur la même ligne, mais des églises dans l'État, dont l'État est là pour garantir finalement le libre exercice du culte, le libre exercice des libertés de conscience, des libertés de croire ou de ne pas croire, mais de ne pas prétendre incarner un pouvoir temporel. C'est ça la loi de 1905. Mais là, la vision finalement qu'on en a, l'instrumentalisation de la loi de 1905, c'est finalement plus cette incroyable outil de cohésion, mais finalement un outil de stigmatisation. Moi, j'appelle ça même une arme de stigmatisation vis-à-vis des populations musulmanes. Mmh. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est qu'à partir des années 2010, c'est presque devenu l'apanage, la chasse gardée de l'extrême droite et aussi de la droitisation extrême des débats sur la question de la laïcité. Et finalement, c'est devenu un synonyme. Quand on parle de laïcité, ben, on parle de musulmans, de musulmanes et des potentielles atteintes que ces derniers feraient à la laïcité. Et là, on perd, à mon sens, complètement cette idée de cohésion qu'il y avait derrière à l'origine.
Anne. Oui, parmi les mesures, il est prévu que les mosquées passent du régime de la loi de 1901 à celui de 1905. Jean-Pierre Sakoun, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Quel est le...
Oui, mais vous n'échapperez pas au fait que je vais revenir quelques secondes sur ce qu'a dit Madame Camilla.
Quelques secondes.
Elle a introduit en deux ou trois phrases quatre éléments qui sont absolument inimaginables. Elle a commencé par dire les religions étaient dans l'État. Non, justement, les religions n'étaient plus, ne sont plus dans l'État. Elle a dit d'autre part que c'était une loi de pacification. Une loi de pacification qui a commencé par l'excommunication par l'Église catholique de tous ceux qui ont voté la loi, y compris Aristide Briand, qui s'est traduit par l'entrée de l'armée dans les églises. Non, c'est pas une loi de pacification, c'est une loi d'imposition du retrait du religieux de l'ordre du politique, aux catholiques et aux autres. Dès 1905, c'est les églises, et l'État.
Oui, mais à l'époque, c'était surtout...
Il y avait les catholiques, mais toutes les religions que nous connaissons en France étaient déjà présentes, dont 4 millions de musulmans dans les départements français d'Algérie, les trois départements français d'Algérie.
Pour en revenir aux mosquées,
Si vous voulez, la loi de 1905 est une loi qui définit un type d'association spécifique, l'association cultuelle. Cette association a un seul objet, c'est l'exercice du culte, et en contrepartie du fait qu'elle se limite à cet objet, elle a quelque chose que c'est le seul type d'association à avoir en France, la garantie de son libre exercice. Aucun autre type d'association en France n'a la garantie de son objet. Mmh. Celle-là, là. À une condition, c'est qu'elle ne s'occupe que de culte. Et pourquoi ? Parce qu'en ne s'occupant que de culte, elle ne fait pas de politique. Donc la manière de contourner est d'ajouter des éléments qui dépassent le culte pour pouvoir constituer une association en 1901.
J'ajoute
un
sujet,
tout petit point.
Vous lui laissez la parole.
Dès 1907, et c'est le problème fondamental, cette loi a été remise en cause par une loi qui a autorisé les associations cultuelles à s'organiser en association 1901.
Fatima Kemila.
Alors maintenant que M. Sakoun a bien voulu me laisser parler, je vais revenir donc sur la question que vous venez de poser. Pourquoi avoir des mosquées qui sont sous la loi de 1901 et pas la loi de 1905? Déjà pour des raisons historiques, c'est les municipalités, c'est-à-dire les pouvoirs publics français qui ont demandé à l'origine aux responsables de mosquées de s'enregistrer sous la loi de 1901. Et cela dès les années 1970 avec l'installation des premières salles de prière à l'intérieur des usines. Et cette condition, c'était une condition à pouvoir les subventionner et les inviter à s'installer. À l'époque, dans les années 1970, c'était même demandé par les mairies et par les patrons d'usines parce qu'ils considéraient que la religion musulmane était un outil de pacification. Mmh. Et c'était aussi une manière un petit peu de désamorcer les mobilisations et les solidarités avec les partis communistes et ouvriers qui faisaient des grèves. Mais on voit comment le discours a sacrément changé.
Alors, on va aborder une mesure qui est très contestée, en tout cas qui est polémique. C'est une mesure de cette loi qui vise l'instruction à la maison, qui concerne 62 000 enfants.
Exactement, qui vise à mettre fin à l'instruction à la maison. Et ça concerne effectivement 0,5% des élèves, donc c'est assez peu. C'est contesté par beaucoup de personnes. C'est contesté par le Conseil d'État, d'abord, qui a tiqué sur un point juridique et même constitutionnel, puisque c'est l'instruction qui est obligatoire, pas la scolarisation. Le gouvernement a donc revu sa copie et va proposer des mesures d'exception qui seront autres que médicales. Et puis c'est contesté également par les familles concernées qui rappellent qu'elles font déjà l'objet d'un contrôle social et pédagogique et d'une obligation de se déclarer. Et pourtant, on le voit bien, le gouvernement n'en démord pas. Des familles déscolariseraient leur enfant par volonté de séparatisme et par contestation des valeurs de la République. Dans son interview